Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Et oui, 19h, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Et vous savez qu'à 19h chaque mercredi, c'est l'heure de la chronique culture, et c'est Marc Aubrégon qui s'y colle. Il va parler cinéma, et cinéma français. Et il va dire du bien d'un film français.
Incroyable, et oui. Il s'agit de Juste une illusion de Toledano et Nakache qui est sorti aujourd'hui. Alors, va-t-on en finir un jour avec les années 80 ? C'est comme si cette décennie constituait le rempart infranchissable au-delà duquel tout imaginaire devenait impossible. Est-ce parce que les quadragénaires que nous sommes sont désormais au pouvoir et qu'ils tentent de rejouer sans fin le théâtre de leur enfance ? Est-ce parce que les années 80 constituent un moment clé de l'histoire, ce moment où celle-ci entre justement dans son propre simulacre, dans une version pacifiée, climatisée, optimisée pour la civilisation des masses ? Avec cette guerre froide qui n'en avait que le nom, mais qui laissait à l'Occident cette douce sensation d'être pour toujours à l'abri du danger, bien planqué sous son parapluie nucléaire et sous les arcs-en-ciel dégobillants de la culture queer naissante. De cette hypnose globale que fut le mitterrandisme avec ce sphinx qui a transformé la 5ème République en pays du jouet, en île aux enfants, cerné par quelques goules malfaisantes dont on taira le nom ici. Est-ce parce que quelque chose de la trame du temps s'est arrêté là, figé dans les premières machines IBM, les premiers algorithmes qui soufflèrent leurs intuitions fatales aux places financières, dans cette lente numérisation du monde qui venait et que nous, candidement, on observait avec un mélange de ravissement et de stupeur un peu surjoué. Rappelez-vous, on craignait encore le bug de l'an 2000. Les modems 56K nous donnaient l'impression, en nous connectant à web avec ce petit grésillement un peu inquiétant, d'accéder à un univers où tout était possible. Rappelez-vous, on appelait ça les autoroutes de l'information. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont plutôt tout transformé en décharge publique. Mais passons. Rappelez-vous, le bicentenaire de la Révolution française, lugubre défilé de mode orchestré par Jean-Paul Goude, qui venait de célébrer cette fin de l'histoire, ce remplacement de la cause et de l'effet par le glissement et la duplication. Ce que l'historien Jean de Vigry appellerait plus tard la sarcophagite aiguë, lorsqu'on collecte mur tout, lorsque tout devient musée, patrimoine, hommage. Alors voilà, ce sont ces années 80 que Olivier Nakache et Eric Toledano ont choisi de nous raconter encore dans leur dernier film, Juste une illusion. Alors c'est sûrement leur film le plus personnel, puisqu'ils y évoquent leur adolescence de petits juifs de banlieue, à l'époque où l'on copiait encore des cassettes, où la guerre faisait rage entre amateurs de funk et de cold wave, et où le summum du chic était d'avoir un t-shirt blanc trop grand rentré dans un jean bleu délavé. C'est aussi l'époque bénie des vidéoclubs, où l'on se défiait entre potes, qui oserait s'aventurer dans l'espace réservé aux films pour adultes, avec leur rideau rouge obsédant, qui laissait parfois entrevoir, au détour d'un courant d'air, quelques jaquettes scandaleuses aux noms fleuris. Alors, on pourrait trouver l'exercice de style un peu facile, un peu réchauffé, car le design et la direction artistique du film est très minutieuse, parfois un peu trop clinquante. Mais c'est précisément là que les deux cinéastes parviennent à se jouer de nous et à faire autre chose qu'une simple chronique douce et amère des années 80. En effet, tout est dans le titre, juste une illusion. Le cinéma, les années 80, le mitterrandisme tout-puissant, dans lequel d'ailleurs le macronisme barbote encore comme un nourrisson gâté, et si tout ça n'était rien justement qu'une grossière illusion. Car en fait, dans le film, tout est une réflexion sur la qualité trompeuse des souvenirs, sur la façon dont la mémoire, au même titre que le cinéma, se charge de hiérarchiser, de censurer, d'organiser les images pour créer une sorte de légende dorée, collective ou pas. Ainsi, presque tous les souvenirs qui sont évoqués dans le film sont des souvenirs truqués, des images à double fond, comme un échiquier qui renferme une cassette porno, comme une confession au rabbin qui cache des intentions peu louables, ou un monologue vibrant de la mère de famille sur l'exil de sa famille séfarade, et qui se révélera en réalité n'être qu'un doux conte pour enfants. Contrairement aux apparences, Juste une illusion n'est pas un film initiatique. Au contraire, il est même l'inverse. Il est un film sur les apparences, un peu à l'instar de The Fablemans, chef-d'œuvre de Spielberg, qui prenait des allures autobiographiques pour raconter justement l'impossibilité à faire un film autobiographique. À ce titre, les deux films racontent finalement comment le cinéma n'est qu'une vaste entreprise de destination collective, de rétro-ingénierie, ici prisonnier de cette capsule temporelle qu'est les années 80. Voilà qui fait penser finalement à la fameuse phrase d'ouverture du Mépris de Godard, « Le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs ».
Merci Marc Aubrégon, Marguerite Frison-Roche, vous partagez l'avis de Marc Bobagon.
Je n'ai pas vu le film, donc ça va être difficile.
Ben, on dit oui quand même.
Mais du coup, oui.
Vous croyez que quand on fait des critiques littéraires, on lit un livre, on regarde une quatrième de couverture pour un film, on regarde une bande-annonce.
Non, mais j'ai vu la bande-annance et ça m'a donné envie de le voir. Et je sais qu'ils sont très drôles, ces deux réalisateurs. Donc,
faut faire confiance à Marc qui a un goût très sûr et très éclectique.
J'ai
alors, revenons à nous. Qu'est-ce qui vous fait croire que le cinéma français va bien? Alors, deuxième cinéma dans le monde, oui, mais forcément, vu d'où on part, la descente va mettre un peu de temps. mais disons que j'ai quand même le sentiment que le cinéma asiatique, coréen, hongkongais est un peu plus vivace, un peu plus créatif.
Bah, parce qu'ils émergent, mais nous, on tient notre rang, alors qu'on pourrait imaginer que, vu le bide que font un certain nombre de films financés par le CNC, on pourrait s'imaginer une chute. Mais je pense qu'il y a encore de très bonnes productions françaises. Et moi, je m'en suis rendu compte en regardant les Césars, que vous allez honnir, j'imagine, mais je trouve que la plupart des films qui étaient sélectionnés pour les Césars, cette année en tout cas, je les ai quasiment tous vus, et je trouvais qu'ils étaient de très très bonne qualité.
D'accord. Non, mais c'était une question complètement neutre. Hein.
D'accord, vraiment neutre. Ouais.
Ah, mais complètement. Alors, je vais revenir sur une partie dont on parle peu dans la culture qui est importante, et alors je sais pas, c'est quelque chose qu'on pourra changer, mais vous incitez sur les territoires. Ce qui est vrai que c'est un sujet essentiel. Malheureusement, la France étant ultra centralisée, tout se joue à Paris, et peut-être encore plus la culture se joue à Paris. Ce sont les institutions centrales, les grandes machines. C'est là où se rencontrent les écrivains quand vous habitez. C'est depuis Balzac, on le sait, quoi. Voilà.
C'est tout se passe à Paris.
Vous êtes à Angoulême, vous allez monter à Paris, comme on dit, pour essayer de
vous faire
une carrière, faire un nom et devenir un grand écrivain. Et puis parfois, vous revenez à poil, même souvent. Alors justement, quel est votre diagnostic sur le sujet, sur le sujet des territoires? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait résoudre comme problème? Est-ce que surtout c'est réaliste? Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de décentraliser, en fait?
Oui, je pense. Et je pense qu'on peut déjà utiliser les moyens qu'on a, notamment avec les maires. Là, on vient de passer la séquence municipale. Or, les maires qui viennent d'arriver ont des vrais pouvoirs sur la culture. Ils ont des prérogatives sur la culture locale et même sur l'urbanisme. Quand on disait que les villes étaient un peu moches, notamment aux entrées, ça, c'est du ressort du maire de pouvoir changer ce genre de choses. Et c'est du ressort du maire de faire la programmation culturelle, le patrimoine sur place. Et je pense que, et c'est ma vocation aussi, c'est d'aller conseiller un certain nombre de maires pour leur donner des idées pour avoir une vraie accessibilité des Français à la culture. En plus, aujourd'hui, on a des moyens. Certes, il faut monter à Paris pour se faire un nom, mais tout le monde n'a pas vocation à se faire un nom et à devenir un écrivain. En revanche, quand vous habitez en dehors des grandes métropoles, vous êtes content d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller au concert, de pouvoir faire en sorte que vos enfants soient inscrits à un cours de musique. Et c'est ça qu'il faut, à mon avis, réinsuffler, les cours de théâtre, etc. Moi, j'ai grandi dans une ville de 20 000 habitants et j'ai eu accès à la culture quand même. Donc c'est pas un réserve. Enfin, on peut trouver des solutions même quand on n'habite pas à Paris.
C'est intéressant ce que vous dites sur les concerts, parce que j'ai le sentiment que l'art qui se déplace le plus, c'est la musique. Vous regardez les artistes, il y a des tournées.
Oui, il y a des tournées.
Il y a des tournées, on va partout. Le théâtre, pour faire une tournée, il faut avoir déjà un grand succès à Paris. Il faut que les comédiens ou ceux qui les remplacent soient disponibles. C'est quand même quelque chose de lourd et les financements ne sont pas les mêmes et les rentrées d'argent ne sont pas les mêmes non plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant là-dessus. Et en même temps, si on regarde sur le cinéma français, si vous regardez dans les 10 dernières années, les grands succès, les succès qui dépassent plus de 8 millions, qu'on fait les 10, 12, 14, il y a beaucoup de systèmes de bouche à oreille, parce que ça ne marche pas sans bouche à oreille, et le bouche à oreille démarre et ne peut fonctionner que par les avant-premières dans les tournées de province. Si vous regardez par exemple Amourouf, ça a marché comme ça. Si vous regardez Le Comte de Monte Cristo, alors évidemment, il y a eu toute la batterie, la promo, mais le
boucherie,
il y a un petit truc en plus, c'est le symbole le plus fort.
Oui,
c'est 300 000 entrées avant qu'il sorte.
Oui, ça c'est
300 000 entrées avant qu'il sorte. Et donc, avant qu'il sorte, 300 000, le jour là, il était déjà à 300 000 le jour de la sortie. Parce qu'il avait fait des tournées, il avait fait des avant-premières dans toute la France. Et le boucherie a fait que via les réseaux sociaux, on se partageait, on échangeait. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, c'est le rôle de la province dans les succès. Que ça soit,
oui, complètement. Voilà. Ouais.
Donc ça, c'est intéressant. Rémi Carlu a une question.
Non, c'était une remarque sur ce que tu disais. L'art le moins mobile, moi, je trouve, c'est la peinture. En France, contrairement à tous les autres pays, contrairement si vous allez en Allemagne ou en Angleterre, en France, si vous voulez voir un grand tableau, vous êtes obligé de venir à Paris. les musées en province et même dans les grandes villes de province en France, mais sont franchement de qualité assez médiocre. Alors je suis sûr qu'il y a des chefs-d'œuvre dans les sous-sols du Louvre, il doit y en avoir à plus place. Et à l'inverse, vous allez, je sais pas moi, à Lyon, à Strasbourg, etc., ou à Lille même, vous avez le musée des Beaux-Arts de la ville où il y a un Monet, c'est exceptionnel. Alors qu'à Paris, en fait, il y en a partout.
Oui, peut-être. Alors, peut-être qu'aussi les artistes qui sont exposés dans ces musées-là en province gagneraient à être plus connus. Et peut-être que justement, il y a tout un phénomène de on connaît très bien Monet, on va voir les quelques tableaux connus au Louvre, et on connaît moins bien des peintres qui sont peut-être qui n'ont pas eu le même succès et qui gagneraient à être plus connus. En revanche, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les musées qui est c'est un système poussiéreux. Enfin, je veux dire, ça n'intéresse plus personne et on a l'impression qu'on a du mal à essayer de redynamiser les musées. Je pense que juste aller au musée, ça n'intéresse plus grand monde. Il faudrait trouver d'autres manières, faire en sorte de mettre des concerts à l'intérieur, de faire en sorte que ce soit vivant. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion et ça, je l'ai justement avec la professeure qui est dans mon comité scientifique, de redynamiser les musées et de donner des idées pour faire en sorte que ce soit pas juste un truc qui soit vacant toute l'année et on envoie juste les classes aller visiter
mais ça,
le musée.
Parce qu'il y a quand même les classes qui y vont.
Oui, mais c'est ça.
Le Louvre est très visité. Oui. Moi, quand je fais une exposition, les expositions à Orsay sont toujours très bien fichus, deviennent insupportables.
Vous parlez des musées parisiens, vous parlez des musées...
Oui, je parle des musées...
Non,
bien sûr. Non, évidemment que les musées parisiens, eux, ils ont...
Je crois qu'il faudra envoyer, moi, des œuvres des musées parisiens, parfois en tournée en province, je crois.
Ah, mais, non, mais ça ne m'étonnerait pas. Oui,
vraiment, déjà, au Louvre, on a du mal à assurer la sécurité, alors imagine sur les transferts.
Oui,
ça va être compliqué. Puis là, ce n'est pas en transpalette. Mais alors, vous parlez de rayonnement culturel.
Oui.
Alors ça, en effet, on le juge après qu'on a eu un rayonnement énorme et qu'on vit sur ce rayonnement-là. Et il était tellement énorme qu'on a encore un peu de temps avant de s'effondrer. Mmh. Et la question, ce qui est toujours compliqué, et on viendra ensuite sur le sujet du rapport avec du privé, du public et de la subvention, c'est comment on juge un rayonnement. Quels sont les critères pour juger un rayonnement? Parce que quand on engage une action, et donc derrière des financements, et donc des risques quand c'est du privé, des critères du rayonnement ou d'une réussite en dehors du succès public, mais on connaît tellement d'œuvres qui ont été des fours avant de devenir là. Quels sont les critères? Est-ce que vous avez une idée de ça?
Ça va être plus facile de juger le rayonnement avec des choses du patrimoine, c'est-à-dire qu'on juge le rayonnement de la France grâce à son tourisme, par exemple. Quand on est la première destination, il me semble que c'est Paris ou alors la France, faudrait voir, qui reste la première destination des touristes dans le monde depuis plus de 10 ans, c'est qu'a priori, on a un rayonnement qui marche très bien. Le fait que le français soit passé la 4e langue la plus parlée au monde et qu'elle est la, je sais plus combien tième, la plus apprise, certes avec la francophonie et donc l'Afrique là-dedans, mais c'est quand même... Mais c'est un gage de rayonnement, surtout savoir concurrencer l'anglais qui est partout. Comment on mesure le rayonnement, la portée des films à l'extérieur. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, un film qui va faire beaucoup d'entrées dans les, peu importe, dans le reste du monde, c'est un succès. Ensuite, ça c'est une manière de juger globalement du rayonnement. Après, œuvre par œuvre, il faut savoir ce qui peut être exporté, ce qui ne l'est pas, ce qui est exportable. Enfin, mais après, on peut se demander quel est le rôle de l'État, qu'est-ce qu'il doit assurer? Est-ce qu'il doit assurer justement le rayonnement de ce qui existe, dont on est certain que ça va contribuer au rayonnement de la France? Et ça, je pense que oui. Et
donc,
ça
c'est le patrimoine.
Patrimoine matériel et immatériel.
Alors, justement.
D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que dans les films qui s'exportent à l'étranger et qui marchent bien, c'est plutôt des films patrimoniaux qui rebondissent sur une image un peu de la France, un peu séculaire, un peu voilà.
Un peu Amélie Poulain.
Ou alors l'accent d'humain. En revanche, est-ce que la France a un vrai soft power? Je ne pense pas. Je pense que la France a beaucoup de mal à exporter.
Un pouvoir d'influence.
Un doux pouvoir.
J'ai pas vraiment l'impression, en fait. Je pense que la France.
Je pense qu'elle manque de stratégie là-dedans. C'est-à-dire que c'est ça, quand vous avez la plupart de vos décideurs publics et politiques qui parlent un espèce de un français de mauvaise qualité avec du franglais, vous pouvez pas vous attendre à ce qu'on soit une langue qui va être conquérante dans le monde entier, quoi. Donc il y a une part d'implication manquante, je trouve, de la part des politiques. Si vous estimez qu'il n'y a pas de culture française, comment vous allez faire la promotion?
C'est par rapport à la création, parce que par exemple, on montre bien que le cinéma coréen, justement, parvient tout à fait à exporter des films qui sont pourtant très exigeants, qui parlent de la culture coréenne, mais parce qu'il y a cette volonté, finalement, d'être universaliste. Je pense que le cinéma français, alors, c'est peut-être un problème structurel, un problème de nature, mais il y a beaucoup de mal, justement, à exporter sa culture moderne, contemporaine, en fait.
Mais est-ce que c'est un problème est-ce que le succès du cinéma coréen, qui est réel, hein, et c'est vrai, le cinéma japonais, enfin, le cinéma asiatique est en train d'exploser, Est-ce que c'est pas simplement la très bonne qualité de leur film qui fait que ça marche? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à être universalistes ou ils cherchent juste à être très bons? Et comme c'est très bon, ça nous parle, alors même qu'on est très loin des codes de la société coréenne. Et je pense qu'on a du mal à exporter quand on n'est pas très bon sur certains domaines. Enfin, je veux dire, pour un film, on ne peut pas juger. Quand c'est toute notre industrie du cinéma ou de la musique, par exemple, qu'on a du mal à exporter. Alors que, par exemple, les Belges qui font de la musique en français exportent très bien leurs chanteurs pop. C'est que c'est a priori un problème qui vient de la stratégie
c'est
française.
Structurel, ouais.
C'est structurel. Voilà.
Rémi Carlu.
Oui, il y a un autre problème de la culture. Alors là, pour ce qui est de la droite, c'est la question de la politisation.
Oui.
Parce qu'il y a une tentation à droite, face à laquelle nous on essaye de lutter avec l'incorrect, qui est de dire, en gros, pour lutter contre la culture de gauche, il faut faire une contre-culture de droite. Mais donc, il faudrait, comme la gauche, politiser la culture au lieu de juste de faire de la culture tout court. Est-ce que ça, vous, c'est un phénomène auquel vous avez été confronté?
Ah bien sûr, et sur lequel je veux vraiment me positionner pour que ce ne soit pas le critère. C'est-à-dire que je vote ce que je veux, mais le but est de préserver, l'excellence dans la culture, le rayonnement de la France, c'est pour ça que je mets ça en avant et pas la culture de droite contre la culture de gauche.
Alors, il y a un auditeur qui n'est pas content.
D'accord.
Musée moche en région, ça c'est pour Rémi Carlu. Faux.
J'ai pas dit qu'ils étaient moches.
Celui de Rouen est très bien, par exemple, et bien d'autres. Je ne vous pensais pas si j'aime Germano Pratin, pardon, à ce point.
C'est un provincial qui vous parle quand même, mais je le fais hélas parce que...
Un provincial à Paris, ça y est, il s'est fait gangréner. Mais c'est comme ça. Alors, le patrimoine. J'aimerais bien qu'on parle un peu de patrimoine parce quel est l'état des lieux que vous faites sur le patrimoine en France aujourd'hui?
Manifestement, il y a un manque cruel d'argent, j'ai pas les chiffres.
Est-ce que vous savez combien le ministère de la Culture donne pour le patrimoine?
J'ai pas les chiffres.
Je crois que mémoire, c'est moins d'un milliard, hein.
Mais je pense que c'est vrai, alors qu'on doit être à plusieurs milliards de nécessités. Et c'est pour ça qu'on a inventé le loto du patrimoine. Enfin bref, on essaie de trouver tous les subterfuges pour aller chercher de l'argent. Et à côté de ça, c'est ça, on a des débats entre est-ce qu'il faudrait rogner quelques millions dans l'audiovisuel public et on n'est pas capable de trouver des centaines de millions pour des châteaux qui s'effondrent, des églises. Mais de la même manière, l'État doit subventionner sans doute un certain nombre de rénovations du patrimoine. Mais il y a aussi un vrai sujet de se dire... comment le privé pourrait plus contribuer à ça. Et c'est là le rôle de l'État de se dire il ne doit pas forcément donner plus d'argent, mais peut-être créer des lois ou des systèmes attractifs pour le privé pour aller investir ou
défiscaliser.
Voilà. Alors, on a déjà une loi qui est bien sur le mécénat, la loi Yagon, qui permet en gros 66% de défisc, mais peut-être qu'il y aurait plein d'autres systèmes à inventer pour encourager en gros le don et la philanthropie, comme on le fait aux États-Unis par exemple. Mais ça, ça va mettre du temps à rentrer dans les mentalités parce qu'on s'est tellement habitué au fait que l'État devait payer pour tout, et à la fois on se plaint qu'il ne paye pas pour tout, enfin bref, on est quand même habitué depuis Jack Lang à être biberonné aux subventions, que même les grandes fortunes vont avoir du mal à avoir ce réflexe de mécène, de philanthrope. C'est pas, on va pas basculer du jour au lendemain, même en retirant l'État, vers un système très philanthropique à l'américaine.
Donc vous pensez que c'est l'État qui doit être le déclencheur de ce... de soutien de la part du privé, donc de mécénat ou d'entreprise ou de fondation.
Il doit permettre avec les lois d'être attractif pour que c'est ça qui va... Les bons sentiments, ça ne suffira pas pour convaincre les gens de mettre la main au portefeuille, pour être très clair.
Il faut des mécanismes.
Il faut des mécanismes qui soient incitatifs, c'est comme ça que ça marche. Et donc, pour attirer les investisseurs, il faut des mécanismes attractifs pour les investisseurs.
Alors, on a quelque chose qui mélange patrimoine, culture, création, qui cartonne, qui rayonne, ça s'appelle le Puy du Fou.
Oui.
Alors, je ne sais pas si on peut rentrer ça dans l'art, on est plus dans l'art-entertainment, pardon pour l'anglais, mais en tout cas, ça a de divertissement, mais ça mélange un peu tout ça.
Parce qu'il y a des techniques du théâtre, du...
C'est aux confins de tout ça. Oui. Ça rayonne, et parce qu'on essaye d'en développer à côté. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on voit depuis quelques années une volonté chez certains de créer des mini Puy du Fou.
Oui.
Il y a par exemple au Rocher Mistral, il y a évidemment, vous savez, comment ça s'appelle, les nuits...
Mer de sable.
Dans l'Allier, où justement cette année, il y a eu l'année passée, toute la gauche est levée contre ce spectacle-là, et finalement il a pu avoir lieu parce qu'il y a eu une mobilisation. Mais est-ce que ça fait partie des idées qu'il faudrait développer à grande échelle?
Je pense,
spectacle vivant.
Oui, c'est ça. Enfin, on ne va pas rentrer dans des fins critères de savoir est-ce que c'est de la musique, du théâtre. Moi, je pense que ça contribue à la défense, c'est ça, de certaines techniques de théâtre, de certaines techniques de musique. C'est des musiciens, c'est des créateurs, c'est des scénaristes qui écrivent les spectacles. Je pense que c'est très bien. Et en plus, ça vient participer à la connaissance de la langue française, de l'histoire française. On disait que la crise du goût vient aussi d'une crise d'un culture de beaucoup de Français, et je pense que ça peut essayer d'y répondre. Alors, parce que c'est très accessible.
Alors qu'on revienne sur la subvention, parce qu'en effet, c'est l'idée, on entend. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que beaucoup de Français qui se réintéressent à la culture, on parle de biais politiques, donc c'est très bien. L'audiovisuel public, évidemment, a déclenché ça, mais on entend souvent le cinéma des gauchistes, l'opéra des gauchistes, les bobos subventionnés, tout ça. Et donc là, on a forcément une nature un peu révolutionnaire, donc on dit, on décapite tout le monde, terminado, il n'y a plus rien. Est-ce que les subventions dans la création ont un rôle important et doivent être maintenues? Comment trouver un équilibre entre le public et le privé? Parce que le privé dit forcément rentabilité. Si on prend l'exemple du cinéma, on va faire les tuches, c'est rentable. On fait la règle du jeu de Renoir, c'est pas rentable. Bon, il y en a un qui va rayonner, l'autre, je doute de son rayonnement. En tout cas, je ne suis pas certain.
Oui.
Alors, comment on trouve un équilibre là-dedans?
C'est extrêmement complexe et je pense que ça. Il y a aussi un. On disait tout à l'heure un phénomène de société, de personnes qui s'intéressent de moins en moins à l'art. Et pour s'intéresser à l'art et pour investir dedans, il faut reprendre aussi une culture du mécénat. C'est-à-dire, vous allez être mécène du cinéma ou vous allez parier sur un artiste, un peintre, par exemple. Il faut admettre qu'il y a un risque. C'est-à-dire que c'est même la nature même de l'investissement est beaucoup plus risquée et donc il va falloir se réhabituer à ça. Et c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur des mécanismes qui peuvent favoriser l'investissement du privé là-dedans, parce qu'il va falloir opérer une transition dans la tête des investisseurs qui, naturellement, veulent réduire leurs risques, et c'est normal. Pour autant, est-ce que l'État doit investir dans la création? Je pense que c'est toujours un piège, parce que vous êtes dépendant de l'État pour créer, et donc vous allez flatter le pouvoir en place, et je pense que, au début, c'est peut-être pas un problème, mais à terme, vous allez forcément devenir servile ou en tout cas très peu subversif et très peu et puis vous êtes pour reprendre le mot de Milley, si vous êtes payé par l'État comme un artiste, vous êtes un fonctionnaire. Donc il y a un vrai sujet.
Oui, mais il pourrait vous répondre que Molière et lui ont été payés par les rois.
Oui, c'est ça, mais en tant que mécène. Et c'était
que l'Argentine,
pas...
le jour où ils auront des artistes, ils nous appelleront.
Oui, c'est ça, ils ont pas un cinéma, ils ont un cinéma un peu important, mais
Si on peut taper sur Milley gratuitement.
Oui, mais ça va. Je veux pas, moi je suis pas une libérale forcenée à me dire il faut à tout prix tout basculer dans le privé et tout. Et je pense que non, il y a vraiment une mission régalienne de la culture. Et je ne pense pas que tout doit basculer dans le privé. Pour autant, il y a un vrai sujet sur la création et je pense qu'on est. Enfin, pendant longtemps, on a fonctionné avec des artistes qui n'avaient pas le sou au début, mais qui ensuite ont trouvé des mécènes. Et je pense que ça leur a permis de se dépasser et et de ne pas prendre des habitudes de subvention où, en fait, à la fin, vous devenez plus un courtisan et un flatteur qu'un artiste qui va se renouveler.
Un salarié de la culture.
Un salarié de la culture.
Oui, un embourgeoisement. Oui. Alors, il y a un autre sujet, peut-être un dernier sujet qu'il faut qu'on aborde et qui est important, c'est une nouvelle donnée, c'est l'IA. L'intelligence artificielle. Parce que le principe de la culture, c'est un commun. Le principe de l'intelligence artificielle, et on a vu les mécanismes avec les plateformes telles Amazon, Apple, avec le système d'algorithmes, qui vous pousse à vous consommer ce que vous aimez déjà, et donc enlever toute curiosité, donc vous n'allez plus découvrir d'autres contrées. Et l'IA risque peut-être de faire des créations encore plus personnalisées et donc encore moins communes. Comment l'IA entre en ligne de compte dans votre réflexion ou dans votre think tank?
Mais je pense qu'il y a plein de sujets avec l'IA, ça touche tout le monde, mais il y a aussi le sujet de la création, il y a le fait que aux États-Unis il y a des contestations régulières parce que l'IA remplace les scénaristes, l'IA remplace même les acteurs maintenant. Même pour les éditeurs, c'est un vrai sujet de voir si les romans qu'ils reçoivent ont été écrits par l'IA. Ça va être très très dur, enfin ça ne se... cantonne absolument pas au seul sujet de la culture, donc je pense que je vais pas moi en quelques mois trouver toute seule la réponse à ce sujet. En revanche, je pense qu'il y aura toujours une vraie attraction dans la culture pour ce qui est de l'ordre de l'humain à l'humain, c'est-à-dire que vous aurez beau avoir l'IA, vous serez toujours content d'aller voir quelqu'un jouer du violon, jouer une pièce, et c'est ça qui prendra sans doute plus de valeur parce que c'est quelqu'un qui s'est fendu d'apprendre le Cid par cœur, qui a fait 20 ans de piano avant de jouer devant vous, et donc il y a des choses que l'IA ne remplacera jamais. C'est ce qui est vraiment ce côté art vivant. Et ça, je pense que ça va reprendre de la valeur du fait que l'IA puisse remplacer certaines fonctions par ailleurs.
Est-ce que vous pensez qu'il faille un jour développer des appellations d'origine contrôlée comme on le fait pour l'alimentation, comme
pourquoi
pour
pas,
le vin.
Oui, d'avoir un label non fait avec l'IA, comme on l'a vu pour la
garantie 100% humain.
Ça commence déjà.
Oui, je pense, Mais il y a déjà les détecteurs d'IA, mais qui ont du mal encore à le détecter. Mais je me souviens pour la pub de Intermarché qui avait le petit court-métrage avec le loup là. Et c'était, ça avait fait un buzz notamment parce que ça avait été fait sans IA. Exactement. Et il y avait une patte humaine et manifestement ça avait marché aussi pour ça.
Alors j'ai une dernière question. Qui dit laboratoire d'idées dit donc lobbying auprès des politiques. 2027, grande élection présidentielle.
Paraît-il,
est-ce que, il semblerait, sauf si d'ici là il se passe quelque chose, mais il semblerait qu'il y ait une élection, et donc derrière des législatives, est-ce que ça, c'est dans votre calendrier? Est-ce que vous souhaitez faire des choses à ce moment-là et profiter de ce moment pour le faire?
Bien sûr, j'ai pas sorti ce think tank à ce moment-là parce qu'il y avait les présidentielles, mais évidemment que je suis très attentive au calendrier politique, et donc le but est d'aller voir un certain nombre de candidats, mais c'est déjà ce que je suis en train de faire, et leurs équipes, pour essayer de remettre la culture en avant dans leur programme, et de sortir un peu des positions un peu faciles de « c'est ça, on va supprimer le ministère de la culture, on va couper l'audiovisuel public », enfin voilà, d'aller un peu plus dans le détail, et c'est ça mon travail de lobby, c'est-à-dire ayons une vraie vision et proposons un vrai programme culturel, ce qui est rarement le cas lors des élections présidentielles.
Je vous l'accorde, on n'en parle jamais. Alors, chers auditeurs, c'est l'heure de nous quitter, malheureusement. Donc, je rappelle Marguerite Frison-Roche, qui a fondé Disruptif, un laboratoire d'idées consacré aux politiques culturelles. Et donc, je suppose qu'il y a un site sur lequel nos auditeurs peuvent se rendre.
Disruptif.art.
Disruptif.art.
ART.
ART, voilà. Donc, vous allez ce soir ou juste après sur les internets, vous regardez ça et vous aurez toutes les informations. Je rappelle également le livre de notre premier invité, Jérôme Fehrenbach, « La République épuisée, le retour nécessaire des vertus chrétiennes », c'est chez l'artilleur. Nous, chers amis, on se retrouve mercredi prochain. Demain, ça sera Marc Hainaut et vendredi, Marc Baudrier de Boulevard Voltaire. Bonne soirée.
Ça suffit maintenant.